4 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, un sujet dont on parle rarement, quand les enfants adoptés deviennent parents. Ils ont grandi en connaissant peu ou pas du tout leurs origines biologiques. Et puis une fois adultes, au moment de fonder une famille, beaucoup de questions ressurgissent. La naissance, l'abandon, les liens du sang, la notion de bonheur intangible. Alors le sujet est encore très peu documenté, mais il est urgent d'en parler. C'est ce que nous allons faire avec Marjorie Gesson, fondatrice de l'association MAMPA, contraction de maman-papa, qui a été adoptée à l'âge de 6 mois au Vietnam. Elle est aujourd'hui maman de 3 garçons. Sandra Racine, adoptée à l'âge de 2 ans en France, membre active de l'association La Voix des Adoptés, également mère de 3 enfants aujourd'hui. Et également dans le studio de RFI, Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste, expert aussi dans des procédures d'adoption. Et puis quant à vous, les voisins, les voisines, vous pouvez bien sûr intervenir dans l'émission. Il suffit que vous n'ayez pas grandi au sein de votre famille biologique, mais plutôt au sein d'une famille d'accueil, et que vous êtes maintenant devenus parents, eh bien faites-nous part de votre témoignage, ça nous intéresse. Par exemple, on a un petit message sur le fil Facebook de Mahamat qui nous dit « Mon histoire n'a pas d'influence sur mes enfants ». Oui, mais quelle histoire? Il ne précise pas. « J'arrive à surmonter les difficultés ». Il ne précise pas non plus lesquelles. On aimerait bien en savoir plus sur votre histoire, Mahamat, si vous n'avez pas grandi avec vos parents biologiques. Appelez-nous, on vous a mis un message sur Facebook, vous ne répondez pas, téléphonez-nous. Et puis tous les autres aussi au 33 1 84 22 71 71. Marjorie Gesson, Sandra Racine et Christian Flavigny, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Marjorie Gesson, vous venez de créer une association assez unique en France, je crois.
Oui, hein, c'est la seule. La seule et la
Mampa.
Première.
Mampa. Maman, papa.
Absolument.
Pourquoi faire?
Pour permettre aux parents qui sont adoptés, les adultes plutôt adoptés qui vont devenir parents, de pouvoir créer un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, de leur montrer, de leur apprendre à vivre sereinement leur vie de famille, parce que quand on est adopté et qu'on devient soi-même parent, il nous arrive d'avoir des véritables moments de solitude dans la mesure où on se sent seul, donc l'adoption ressurgit énormément, l'abandon. Pourquoi nos parents nous ont abandonnés à la naissance, la recherche des origines. Tout ça fait que aujourd'hui, quand on devient soi-même parent, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent en nous.
Et un moment où justement on a envie de retrouver des adoptés qui deviennent parents eux aussi.
C'est justement pour que ces adoptés-là, qui vont devenir parents, puissent se retrouver. Parce que moi, je suis maman aujourd'hui, donc mes enfants ont 6 ans, 9 ans et 10 ans. Mais je sais que lorsque j'ai accouché mes 3 enfants successivement, je me sentais vraiment, vraiment seule. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à partager mes mots de l'époque, sauf avec quelques adoptés que j'ai rencontrés dans ma vie.
Il existe des associations du même type à l'étranger, déjà?
Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je crois que c'est la première.
Sandra Racine, alors vous êtes membre actif de la Voix des Adoptés. Ça, c'est une association qui existe depuis déjà un moment. Hein.
7 ans.
C'est ça, 7 ans, qui cherche à faire entendre les enfants adoptés devenus adultes. Et la question de la parentalité est abordée, justement, quand on devient adulte.
Oui, c'est abordé. Sur le forum, il y a pas mal de posts concernant ce sujet-là. Et j'ai animé un groupe de parole il y a 3 semaines sur ce sujet-là aussi. Où les jeunes mamans... Bon, c'est beaucoup des femmes qui écrivent, mais aussi des hommes qui écrivent, font part d'une certaine fragilité, en fait, durant cette période.
Également chez les hommes?
Également chez les hommes.
Oui.
La question, en fait, du lien du sang, en fait, d'avoir un enfant qui arrive et qui a notre sang, en fait. Donc, c'est nos origines.
Christian Flavigny, c'est un sujet qui est encore quand même assez peu analysé. Hein. Est-ce que c'est parce que finalement on arrive à ces premières grandes générations d'enfants adoptés à l'international qui sont devenus adultes?
Oui, peut-être en effet ce phénomène-là rend plus visible, plus sensible ce thème. Mais c'est un thème qu'il faut resituer, je dirais, dans ce qui est le fait... pour un adulte de devenir parent et voir à ce moment-là ce qui, je dirais, est plus sensible lorsque le jeune adulte a été lui-même dans le passé adopté. Devenir parent, c'est toujours quelque chose de, je dirais, c'est une mutation assez délicate finalement, qui a toujours besoin d'un accompagnement familial, qui en profite, parce que c'est le fait, je dirais, du moment où il ne sera plus question de recevoir ce qui a été le fait de l'enfant, il s'agit à ce moment-là de pouvoir restituer depuis ce qui a été reçu. C'est cela qui est l'enjeu de devenir parent. Alors effectivement, à ce moment-là, comme le dit Marjorie, ce qui s'est passé dans sa propre enfance ressurgit et est à nouveau plus sensible. Ce sont les deux moments, je dirais, où la question de l'adoption peut en effet redevenir sensible. C'est le moment de l'adolescence et le moment de devenir parent. Parce qu'à ce moment-là, restituer, oui, mais restituer quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu
que
et
j'ai
de
reçu
qui est-ce que j'ai reçu? Et alors, c'est là que va être la question importante, parce que généralement, les jeunes adultes adoptés savent très bien qui sont leurs parents, mais il y a quand même toujours la question de, bon, il y a eu aussi cette femme qui n'est pas devenue ma mère, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à ce moment-là, cette question ressurgit et redevient sensible, c'est la question de l'abandon. Bon, est-ce qu'elle aurait pu devenir ma mère? Est-ce qu'elle n'a pas pu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cela redevient sensible. Alors, effectivement, il est important pour pouvoir, je dirais, se sentir disponible par rapport à son propre enfant, puisqu'il s'agit pour le jeune adulte de devenir parent, voilà, que cette question puisse être dégagée et allégée. Et c'est cela qui fait qu'il y a un moment sensible, qui est le moment sensible pour, je dirais, tout adulte qui devient parent, mais en effet, un peu plus sensible dans la situation où le jeune adulte a été lui-même dans le passé adopté.
Marjorie Gesson, alors vous, par exemple, vous êtes arrivée du Vietnam à l'âge de 6 mois.
6 mois, exactement.
En France. Donc c'était il y a une quarantaine d'années. Vous avez aujourd'hui trois enfants. Et vous le disiez, chaque naissance a fait surgir des problèmes, des questions liées à votre passé d'enfant adopté.
Alors c'est surtout la première naissance de mon premier enfant. J'en parlais tout à l'heure à Sandrine tout à l'heure dans la rue. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, je me suis mise vraiment à détester ma mère biologique parce que je ne comprenais pas qu'on puisse abandonner un bébé alors qu'on a tellement d'amour.
Ça n'avait pas été le cas auparavant, justement, ce sentiment de rejet de votre mère biologique.
Non, pas du tout. J'avais jamais eu ce sentiment-là, mais c'est vrai qu'en mettant au monde mon grand garçon qui a 10 ans aujourd'hui, ça a été
vous avez dit, c'est pas possible,
c'est un choc terrible. Je la détestais. Je la détestais parce que je ne comprenais pas. Je n'arrivais même pas à lui trouver d'excuses de face à cet abandon, en fait.
Parce que votre histoire, c'est elle vous a déposé dans une pouponnière ou...
Alors, mon histoire, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est qu'elle aurait accouché de moi dans une maternité et qu'elle aurait demandé aux infirmières de veiller sur moi le temps de faire une course, on va dire ça comme ça, plus rapidement. Et elle n'est jamais revenue. Et à la naissance de mon troisième, en revanche, il y a un épisode de mon accouchement qui a été vraiment très très dur à vivre pour moi. C'est lorsque on m'a annoncé que mon fils avait la jaunisse et que j'avais un besoin viscéral de retrouver mes deux grands. Donc je suis partie de la maternité en laissant mon bébé à la pouponnière. Mais je suis revenue. Mais là, je me suis mise.
Ce qui n'avait en soi rien d'exceptionnel.
Non,
sauf que dans votre cas.
Dans mon cas, c'était exceptionnel. C'était comment dire, comme si je reproduisais ce qui s'était passé il y a quelques années avec moi. Sauf que moi, je suis revenue. Je n'ai pas abandonné mon enfant.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
Je me suis mise à pleurer. Mon mari m'a tenu la main parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprenait pas, malheureusement, ce que je pouvais ressentir. Et donc, je me suis mise à pleurer sans... Voilà, j'ai pleuré, tout simplement. J'ai rien dit parce que je n'avais pas de mots. J'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais à ce moment-là.
Et pourtant, ça, c'était avec le troisième enfant.
Oui. Le deuxième, c'était particulier parce que j'ai accouché de lui de manière prématurée. Donc, j'avais pas le temps de vraiment m'apitoyer sur mon sort parce que j'avais un seul objectif, c'est qu'il naisse le plus tard possible. J'étais à l'hôpital pendant 3-4 mois. Donc, tous les jours, je me battais pour que l'enfant vive encore. Donc, le deuxième, là où j'ai vraiment mal vécu ma deuxième grossesse, c'est que je n'ai pas pu l'allaiter. Alors pour moi, c'était vraiment le lien maman enfant bébé hyper important, viscéral, comme ça je voulais que personne d'autre que moi s'occupe de mon enfant.
Sandra Racine, pour vous, est-ce que vous avez revécu l'abandon avec la naissance de vos enfants, la question de l'abandon?
Oui, pour ma première grossesse. Voilà. En fait, tout le temps de la grossesse, il y a une question qui est venue que j'avais jamais eu avant, c'était savoir si j'avais été désirée. Et du coup, j'avais vraiment besoin que mon enfant comprenne que moi je l'avais désiré. Alors je savais pas comment lui transmettre ça, mais j'étais vraiment perdue. Et puis quand elle est née, ouais, j'ai pu vraiment penser et ressentir l'abandon que j'avais vécu. Voilà.
Et vous aussi, vous vous êtes mis à en vouloir, à avoir un ressentiment vis-à-vis de votre mère biologique qui avait pu faire cela, commettre cet acte?
Alors, jamais eu de colère envers elle. Par contre, oui, des questionnements. C'est-à-dire que je regardais ma fille en pleurant. Dès qu'elle me souriait, je pleurais en me disant, mais comment on peut abandonner son enfant et comment est-ce qu'elle a pu m'abandonner, quoi.
Sur les forums que vous animez, la question de l'abandon au moment de devenir parent, c'est la première question qui arrive?
Oh, oui, c'est la première question. Ouais.
Ah, ouais.
Mais différemment de vos histoires,
le ressenti est le même, j'ai l'impression. Chaque histoire est différente.
Oui, c'est ça, le ressenti est le même. Par contre, on n'a pas tous la même capacité à
encaisser.
À l'exprimer, à mettre des mots
dessus. C'est ça, vous vous dites, quand on a préparé cette émission, vous dites, il y en a qui arrivent à intellectualiser l'abandon avant de devenir parent, et ça, c'est tant mieux pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, il y en a qui prennent cette claque-là avant, en fait. Alors, il y a peut-être des déclencheurs dans la vie qui font qu'ils l'ont eu avant. Et je pense que du coup, la fragilité, ils l'ont un peu moins en devenant parents. Ils se sont posés ces questions-là avant.
Il y a aussi des cas où ils se prennent cet abandon beaucoup, beaucoup plus tard.
Aussi.
Oui. Moi, je voudrais essayer de dire, en termes psychologiques, ce que Marjorie et Sandra viennent d'exprimer avec beaucoup d'émotion. Et je m'excuse, moi les termes vont paraître un peu abstraits, mais je pense qu'il faut essayer justement de prendre un peu du recul par rapport à cela pour que les choses puissent se passer de façon satisfaisante. Toute la question de l'abandon, c'est de pouvoir, pour l'enfant qui a été abandonné, accepter l'idée que cet abandon, c'est un don. Et c'est un don que la femme, qui ne peut pas devenir la mère de cet enfant, fait à cet enfant. Et ce n'est pas simple, hein, je le dis là, je m'excuse de résumer quelque chose de manière qui peut paraître un peu abstraite comme ça, mais c'est essentiel, parce que c'est un don, c'est-à-dire que cette femme donne sa chance à l'enfant.
Quel que soit le pays d'ailleurs où
la
mère se trouve, elle va faire l'acte de déposer le bébé.
Voilà. Elle lui donne sa chance, parce qu'elle dit, moi je ne peux pas devenir la mère de cet enfant. Et donc je lui donne sa chance. Alors, je le dis là, mais je résume quelque chose qui est évidemment un parcours affectif extrêmement chargé pour les enfants, avant qu'ils puissent accorder à cette femme le pardon. Et en effet, on voit que cela parcourt beaucoup l'enfance jusqu'au moment de devenir parent. Et c'est logique, parce que ce n'est pas simple. Mais aussi parce que l'enfant, il a toujours la crainte d'avoir été abandonné parce qu'il était un mauvais enfant pour cette femme. Donc tout cela est un parcours chargé, difficile, mais il faut, pour que les choses se passent bien, que l'abandon puisse, je dirais, que le pardon puisse répondre à l'abandon. Et à partir de là, peut se faire un processus d'appropriation. Et il n'est pas facile, en effet, pour une femme qui va devenir mère, de s'approprier le fait d'abandonner son enfant. C'est même impossible. Donc effectivement, il faut à ce moment-là pouvoir faire ce tri qui se fait soit avant ce moment de devenir mère, et c'est peut-être un cas plus favorable, comme le disait Sandra, soit à ce moment-là, peu importe le moment, mais effectivement, il faut que tout ça puisse se faire dans la possibilité, à ce moment-là, je dirais, de laisser à la femme qui a abandonné, eh bien, sa décision et son parcours à elle.
Alors, il n'y a pas que la question de l'abandon, hein, il y a aussi toute la question du questionnement autour des origines et puis beaucoup d'autres problèmes qui ressurgissent au moment de devenir parent lorsqu'on a été un enfant adopté. Comment devenir parent? Donc, quand précisément on n'a pas grandi avec ses parents biologiques, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm. Hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. We'll be right back. Stevie Wonder, For Once in My Life, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des enfants adoptés qui deviennent parents à l'âge adulte et toutes ces questions qui ressurgissent par rapport à leur propre histoire. Sandra Racine, comment la chronologie finalement de sa propre histoire se rejoue quand on devient parent et parfois se superpose de façon assez incroyable? En tout cas, vous, c'est ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas la seule.
Oui, ça se joue, je dirais, de manière complètement inconsciente. On se prend vraiment les choses comme elles viennent et sans pouvoir les devancer. Mais pour ma propre histoire, dans ma première grossesse, en fait, déjà quand elle est née, ma fille, elle me ressemblait beaucoup, mais je pense que physiquement je le savais, mais j'avais pas de photos pour comparer. Personne m'avait vu bébé dans mon entourage, donc je pouvais pas.
Parce que vous avez été adoptée à l'âge de 2 ans.
Voilà. Donc ça, c'était très compliqué. Physiquement compliqué et mentalement très compliqué aussi, psychologiquement. J'étais prise d'une certaine émotion, en fait, mais qui a duré très longtemps. Et en fait, à 3 mois et demi, par exemple, quand elle avait 3 mois et demi, je pleurais toujours devant ses sourires, comme si le bonheur était un peu trop grand, en fait, et que j'avais peur qu'il m'échappe. Et en fait, j'en avais parlé à une infirmière PMI et qui m'avait dit peut-être de me replonger dans mon dossier pour le relire, tout simplement.
Votre dossier d'adoption.
Mon dossier d'adoption que j'avais déjà depuis plus de 5 ans, en fait. Donc, que j'avais lu 150 000 fois, de long en large et en travers. J'avais rangé chronologiquement. Enfin, j'avais l'impression de le connaître par cœur. Sauf que quand je l'ai rouvert à ce moment-là, je me suis aperçue qu'à 3 mois et demi, j'avais déjà été placée une première fois. Mais je l'avais jamais lu. Enfin, j'avais jamais, mon cerveau n'avait pas.
Vous aviez été placée et votre maman était venue vous reprendre.
Nous, voilà, me reprendre.
Pour vous confier à l'adoption définitivement à l'âge de 2 ans. C'est
oui,
à peu près ça.
Ou à peu près ça. Ouais. C'est un peu simplifié, mais c'est un peu comme ça. Donc là, ce placement-là, elle l'avait choisi en attendant de trouver un logement. Enfin, c'est comme ça que c'est expliqué. Oui. Et qu'elle nous avait récupéré. Mais ça, je l'avais pas lu. En fait, donc, ma fille avait 3 mois et demi et je lisais qu'à 3 mois et demi, j'avais été, séparée d'elle une première fois, en fait. Et d'où, je pense, l'émotion qui était là et j'arrivais pas vraiment à y mettre des mots, quoi.
Il y a aussi une autre histoire dans votre parcours de vos 3 enfants, c'est que vous avez eu du mal à tomber enceinte, vous ne parveniez pas à tomber enceinte de votre deuxième enfant.
Voilà. En fait, donc il y a aussi la manière dont on traduit notre propre histoire, notre propre parcours, même si on le lit, nous aussi on l'intellectualise à notre façon. Et moi, ce que j'avais compris de mon histoire, c'est que notre mère biologique, en fait, une fois qu'elle était enceinte d'un enfant, pouvait pas forcément s'occuper de celui qui était avant, de l'aîné, et donc elle le confiait. Et donc moi, j'avais lu par exemple dans mon dossier que mon frère était confié plusieurs fois, mon frère aîné plusieurs fois, durant ma grossesse, enfin la grossesse, quand elle était enceinte de moi. Et du coup, dans ma tête, je me disais que si j'avais un deuxième enfant, ce que je désirais vraiment, j'avais très peur de ne plus aimer ma fille aînée et d'être incapable, en fait, d'aimer 2 enfants en même temps. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte, j'ai fait un vrai blocage. J'étais en thérapie à l'époque et ça m'a amené du coup à la recherche de mes origines et à aller rencontrer ma mère biologique.
Voilà. C'est quand même assez incroyable ces superpositions. On va y revenir avec vos analyses, hein, bien sûr, Christian Flavigny. On va marquer une pause parce que il faut rendre l'antenne pour le flash sur RFI et on retrouvera la suite de cette discussion quand les enfants adoptés deviennent parents et puis vos témoignages. Hein. Si vous avez envie de réagir, les voisins, les voisines, devenir parents quand on n'a pas grandi précisément avec ses parents biologiques et vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Le flash.